Bonjour et bienvenue à Escale 17-18 avec Fulgence Blas au micro et Nicolas à la technique, bien sûr. Il est de retour. Salut Nicolas.
Allô.
Comment vas-tu?
Ça va très bien, j'ai pas la COVID.
Ah non, je te le souhaitais pas. Hein. Moi aussi non plus, on a tous fait le test, tout ça. Et puis bon, ben voilà, la vie continue. La première partie d'émission aujourd'hui, l'avant-dernière de la saison. Voilà, parce que demain c'est la dernière, aujourd'hui c'est l'avant-dernière. Voilà, pour la première partie d'émission, j'ai quelques sujets à aborder, pas d'invité, pas de chroniqueur. Et en deuxième partie d'émission, nous allons rencontrer, non, je ne vais pas rencontrer, mais je vais recevoir Guillaume Joseph, qui est le directeur général de l'Appui. Info aidant, voilà, les proches aidants, si vous écoutez cette émission, restez là, à la deuxième partie de l'émission. On va aller dans tous les détails avec le directeur voilà, de l'Appui, qui est l'organisme qui s'occupe de l'info. Aidant, bien sûr. Alors, on part tout de suite en musique avec un de mes artistes préférés, Pierre Sabourin. Il faut s'aimer comme on est.
Me voici, te voilà. On se regarde dans les yeux. On est arrivé à ce point difficile, décider si on est heureux. Te rappelles-tu des beaux temps? On se rencontrait dans notre parc désert. On se balançait jusqu'aux petites heures du matin. Comment peut-on dire à quelqu'un je t'aime si on veut juste le changer? Je ne veux pas te changer. Faut s'aimer comme on est. Te voilà devant moi avec ton manteau de pluie bleue. Je t'ai déjà dit et je te le redis encore que dans mes mains c'est ton visage que je veux. Et si tu veux encore te tourner le dos, tu peux, mais demande-toi, es-tu capable de partir sans porter le sentiment que je laisse quelque chose derrière? Tu veux que je change, je te dirai, je ne pourrai pas. Comment peut-on dire à quelqu'un je t'aime si on veut juste le changer? Te voilà devant moi avec le dos tourné. Promets-moi que tu m'appelleras si jamais tu changes d'idée. Ou si tu ressens dans ton cœur lointain que tu quittes quelque chose de bien. Tu veux que je change, je te dirai, je ne pourrai pas. Comment peut-on dire à quelqu'un je t'aime si on veut juste le changer? Oh, oh, tu veux que je change, je te dirai, je ne pourrai pas. Comment peut-on dire à quelqu'un je t'aime si on veut juste le changer. Je ne peux pas te changer. S'aimer comme on est. Faut s'aimer comme on est.
Pièce à bourrin, il faut s'aimer comme on est. Waouh. Voilà, comme je disais en début, quand je plantais les décors de l'émission, j'ai bien dit qu'en première partie de l'émission, j'ai quelques sujets que j'ai choisis pour vos oreilles bien sûr. Et en deuxième partie d'émission, on va recevoir le directeur général de l'appui qui s'occupe de l'info aidant. Ça parle bien sûr des proches aidants. Voilà. Ok, tout de suite, un peu de tennis. Hein. Un de mes tennismen préférés d'ailleurs, qui revient tout doucement après une absence de quelques mois, presque 6 mois maintenant. Hein. Raphaël Nadal. Et mon Dieu. Il a annoncé ce lundi, d'ailleurs, qu'il a été testé positif au Covid à son retour du tournoi exhibition d'Abu Dhabi, d'ailleurs, auquel il a participé la semaine passée. Donc, il indique que son programme va évoluer en fonction de son état de santé. Voilà. Et il avait prévu se rendre à Melbourne, en Australie, pour le 29... décembre, mais ça va pas être ce cas-là. Donc son programme est complètement bouleversé. Voilà, positif au Covid-19. Le test qu'il a réalisé dès son retour en Espagne après la participation à ce tournoi d'exhibition d'Abu Dhabi. Que ce soit au Koweït ou bien à Abu Dhabi, ils ont été contrôlés tous les deux jours et puis ils ont été négatifs, lui et les autres joueurs, bien sûr. Le dernier en date de vendredi avec le samedi. Et puis bon, dans un long message sur le web, réseaux sociaux, tout ça, y compris les réseaux sociaux, il a dit que oui, de toutes les façons, je compte être présent à l'Open d'Australie, mais mon calendrier dépendra de l'évolution de mon état de santé. Ouais, ça, il faut le comprendre. D'ailleurs, quand il a arrêté dans le courant de l'année, en début d'année ou bien mi-année 2021, il avait des problèmes de genoux, de santé, tout ça. Il n'est pas encore vraiment revenu. Donc, il fallait qu'il participe à certains tournois d'exhibition pour essayer de reprendre sa forme avant de participer à des tournois là, comme l'Open d'Australie ou bien Melbourne aussi. Il y a un tournoi là-bas, si je ne me trompe pas. Oui, ça c'est le tournoi de Melbourne du 4 au 9 janvier. Et puis l'Open d'Australie, c'est du 17 au 30 janvier 2022, bien évidemment. Voilà, ne sautez pas 2022 pour aller parler de 2023, là, 2022. Alors, quelles seront les conséquences de ce test? Il dit, Rafael Nadal, bien sûr, il dit, il faut que je sois totalement flexible avec mon calendrier et que j'analyse mes options en fonction de mon évolution. Je vous tiendrai informé de toutes les décisions concernant mes prochains tournois. Voilà. Ouais, Melbourne, c'est bientôt, hein, ouais, 4 au 9 janvier, Open d'Australie du 17 au 30 janvier. Il y a pas mal qui vont désister, hein, avec le variant Omicron qui fait son... Voilà, qui a le vent dans les voiles dans le monde entier, sur toute la planète Terre. Personne n'est épargné, nous sommes tous concernés. Voilà, sauf avec exception. Dans les pays tropicaux où il fait chaud, où il y a du soleil. Bien sûr, il y a des cas, mais pas comme dans les pays occidentaux avec des 4 000, 5 000, 10 000, 80 000 cas en une journée. Non, tu ne trouveras pas ça dans un pays tropical, ni en Afrique, ni en Amérique latine. Ça existe bien sûr là-bas. D'ailleurs, c'est parti de l'Afrique du Sud, mais en Afrique du Sud, ils n'ont pas 5 000, 10 000, 80 000 cas en une journée. Non, pas du tout. Pas du tout. Parce qu'il n'y a pas, il n'y a pas d'hiver en Égypte, ni au Soudan, ni au Ghana, ni au Sénégal. Donc ça permet quand même de, voilà, assez au surtout de ces pays d'être un peu à l'abri de ces milliers de contaminations. Ça ne veut pas dire qu'ils sont 100% à l'abri. Et puis la population est jeune aussi, il ne faut pas l'oublier, mais ils n'ont pas les mêmes soucis que nous ici. Au Canada et dans les autres pays occidentaux, bien sûr, où l'hiver est le compagnon numéro 1 de ce virus, si je ne me trompe pas. En tout cas, c'est ce qu'on a vécu l'année passée, et puis cette année, on est en train de le vivre. En été, ça relâche un peu, oui. Alors, on va rester là dans le tennis. Après Nadal, j'ai dit, bon, ben Nadal, je l'aime bien comme tennisman. Hein. C'est un de mes joueurs de tennis préférés, d'ailleurs. Et puis, il dit, ATP, il dit, mon poignet est presque à 100%. Il avait un problème de poignet aussi, ce Nadal. Ouais, Raphaël. Qui avait confié en Afrique en baisse. Il avait le moral face aux bulles sanitaires. C'est pas tout le monde qui arrive à passer des travers. C'est pas évident. Voilà, ça, il faut le dire. Il a une expérience douloureuse aussi des quarantaines et puis des rencontres à huis clos. En novembre, il avait annoncé s'être fait vacciner contre le coronavirus en vue de son retour à la compétition. Souhaitons-lui un très prompt rétablissement pour qu'il retrouve ses amis sur le... Voilà. Le terrain de tennis, quoi. Voilà. Ça, j'aimerais bien le voir. Voir des vidéos de lui, des matchs en direct, pourquoi pas. On va rester là. Il y a un autre aussi qui voulait revenir, mais ça ne va pas. Lui, c'est un Autrichien, Dominic Thiem. Il annule son retour à l'ATP Cup. Voilà, absent des cours depuis le mois de juin. Ils sont pas, la santé n'est pas là pour tout le monde. Hein. C'est effectivement, voilà, il est pauvre. Il a encore un peu plus retardé son retour à la compétition. Il devait avoir lieu de l'exhibition d'Abu Dhabi, puis à l'ATP Cup du 1er au 9 janvier. Et puis ce ne sera finalement pas lors de l'épreuve. Il a annoncé dans un communiqué dans lequel il a su toujours viser l'Open d'Australie. Voilà, c'est comme je viens de le dire. Et puis il est 15e joueur mondial. Hein. C'est pas tout le monde qui supporte tout ce qu'on vit là maintenant, là, à un moment donné. Ah, on verra bien ce que là ça va donner pour lui. On lui souhaite aussi, je lui souhaite aussi, un très prompt rétablissement. Voilà, on va en musique. Écoutez une deuxième pièce musicale. Et n'oubliez pas, c'est bientôt Noël. Hein. Demain, c'est la fin de la saison. C'est pour la dernière émission pour nous. Je vais beaucoup plus jouer de pièces musicales de Noël demain. Alors là, ça va. Je vais remplir les oreilles de Nicolas ici. C'est pas moi qui vais chanter, en tout cas. C'est les artistes qui vont être choisis. Voilà, pour les pièces musicales, avec des pièces musicales de Noël. Demain, on va vous retrouver avec ça. On va en musique avec Sanda Sakuza, I Believe.
Bye. Everybody tell him to play. Give it more heart to steal the cracks. Well then, since I son, know that I've got my own back. One step forward, 10 steps back. Everybody telling me where I lack. Give it more heart to fill the crack. Guess what, Sita san, I've got my own back. 'Cause I believe.
I believe, c'est de la fausse sous le mix. Voilà, pour terminer avec le jeune joueur de tennis, l'Autrichien Dominic Thiem, qui était d'ailleurs le vainqueur de l'US Open 2020. Il dit, je n'aurai donc pas la condition physique requise pour pouvoir disputer l'ATP Cup. Je ne peux pas prendre de risque de revenir trop tôt et de me blesser à nouveau. Voilà, il devait disputer le match de l'ouverture contre le champion en titre et numéro 2 mondial, Daniil Medvedev. Donc son objectif est toujours de jouer l'Open d'Australie. Ouais. Voilà, et puis bon, mais nous prenons une décision finale avec mon équipe quant à ma participation d'ici la fin du mois de décembre. On verra bien. Peut-être pas. Il a été fragilisé par une blessure au poignet d'ailleurs et il avait déjà repoussé son retour sur le court. Il avait annoncé de faire un pas à Abu Dhabi, ce match d'exhibition. C'est là-bas que les gens, quand ils reviennent d'une blessure, c'est dans ces genres de rencontres d'exhibition qu'ils vont retrouver la forme pour savoir s'ils peuvent participer à des compétitions. Les joueurs de tennis, ouais. C'est déjà sur place souhaitant miser sur le circuit d'ailleurs et ça n'a pas été le cas. Il dit, voilà, donc on verra bien ce que ça va donner dans l'avenir, quoi. Voilà, je vais parler un peu maintenant de football, soccer, la Ligue des Champions. On connaît les qualifiés pour les huitièmes de finale qui démarrent là en février. La Ligue des Champions 2021-2022, c'est-à-dire 21-22, c'est la 67e édition de la Coupe d'Europe des clubs champions. Voilà, il y a 80 clubs européens, pour ceux qui ne le savent pas, qui y participent. C'est une compétition organisée par l'UEFA et qui oppose les meilleurs clubs européens qui se sont illustrés dans leurs championnats respectifs la saison précédente. C'est comme ça que ça se passe. La finale va se dérouler le 28 mai 2022 au stade de Saint-Pétersbourg en Russie. Voilà. Donc, le vainqueur de la Ligue des Champions dispute ensuite la Super Coupe de l'UEFA 2022 ainsi que la Coupe du Monde des clubs de la FIFA 2022 et est directement qualifié pour la phase des groupes de la phase de la Ligue des Champions suivante, c'est-à-dire 2022-2023 ainsi de suite pour le vainqueur. Si deux équipes sont à égalité après le match, il y a l'abolition de la règle des buts à l'extérieur. Ça veut dire que si l'équipe A joue contre l'équipe B à domicile de l'équipe A, si l'équipe B fait un but, ça compte deux. Voilà, donc ça c'est aboli maintenant là. Si vous faites 1-1, c'est 1-1. On va en prolongation, ensuite au tir au but. Parce que le but d'avantage à l'extérieur... La règle des buts à l'extérieur, ça avantageait beaucoup les équipes. C'était bien, moi je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont pris la décision de supprimer ça, d'abolir. Donc, si deux équipes sont à l'égalité après le match retour, le nombre de buts marqués à l'extérieur ne serait plus le critère pour les départager. Et la qualification se jouera sur une prolongation et d'éventuels tirs au but. Les tirs au but, c'est les pénaltys. Voilà, c'est là qu'on voit qui est qui. Le joueur, le ballon et le gardien, le but. C'est ça que ça se joue, là. On a vu les meilleurs comme Messi rater le pénalty. Alors, c'est pas parce que tu es meilleur joueur, quand on joue les 90 minutes, que forcément ton pénalty, tu dois le marquer. Là, souvent, ils ont raté ça c'est clair. Voilà. Donc, les huitièmes de finale à la Ligue des Champions qui vont se jouer en février prochain, ça commence. Le match aller des huitièmes, les 15, 16, 22 et 23 février. Alors que les matchs retour auront lieu le 8, le 9, le 15 et le 16 mars 2022. Voilà le calendrier. Paris pourrait s'attendre à mieux que ça. Mardi 15 février, Paris Saint-Germain comme le Real Madrid. Ah, c'est pas donné, hein. Ça, c'est match de feu, ça. Sporting Portugal contre Manchester City. Et le mercredi 16 février, Inter Milan contre Liverpool. Salzbourg contre Bayern Munich. Il y a Bayern München, en allemand on dit, en français on dit Bayern Munich. Et mardi 22 février, Chelsea contre Lille. Voilà. Et Villarreal contre Juventus de Turin. Et le mercredi 23 février, Atlético Madrid, Manchester United. Et Benfica contre Ajax d'Amsterdam. De mes équipes préférées. Et les retours, on va en parler prochainement. Ça, c'est les matchs aller que je viens de dire. Les retours sont en mars. Qu'est-ce que vous voulez ? On va en musique ? Ouais, tranquillement. On va terminer la première partie de l'émission avec The Marathoniens. Avec la voix de Jody Stenberg. Voix et saxo, c'est elle, My Room.
Take you far away. Why don't you just come to me and I'll tell you what you wanna hear today. I'll give you something better than you ever had. Wrap my arms around you and make you glad. Come into my room and I'll show you something that's only true. Come. Don't let me down. Come into my arms, baby, and I'll turn it around. Come. Don't let me down. Don't let me lose you. We'll turn it.
de Marathonien avec Jody Stenberg. Jody au saxo et à la voix. My Room. Voilà, on a la fin de la première partie de l'émission comme ça. Restez à l'écoute. En deuxième partie de l'émission, je vais recevoir le directeur général de l'appui, ce qui est faux aidant, bien sûr, Guillaume Joseph, directeur général national, bien sûr. Et puis, voilà, on va savoir un peu quelles sont les personnes proches aidantes. Plan d'action national, d'ailleurs, pour qu'on puisse vous informer un peu plus pour ceux qui se posent des questions, ceux qui se trouvent dans des situations comme ça, à qui s'adresser et quels sont les services qui sont mis au service des citoyens. Voilà, restez à l'écoute et tout de suite après la petite pause publicitaire, voilà, vous allez avoir toutes les informations de la part du directeur général, Guillaume Joseph.
Escale 17-18 avec Fulgence Blas.
Little darling, don't share. alright. Everything's gonna be 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 alright. Everything's gonna be
version jazzy. Bon, notre invité déjà au bout du fil, Guillaume Joseph, directeur général de l'Appui, cet organisme qui s'occupe voilà de tous les proches aidants, quel que soit. Avant créé, ça a été créé en 2009, était dédié seulement aux proches aidants d'aînés exclusivement. Maintenant, ça concerne tous les proches aidants, quel que soit le profil des personnes qu'ils accompagnent. Il va nous le dire mieux, il va nous le dire plus. Bonjour Guillaume Joseph.
Bonjour, merci de me recevoir.
Comment allez-vous?
Très bien, merci.
Merci.
Malgré les temps incertains.
Malgré tout ce qu'on vit depuis presque 2 ans. Merci à vous d'avoir eu le temps de nous parler de cet organisme, l'Appui d'ailleurs, qui exclusivement, avant c'était exclusif, maintenant c'est ouvert à tous les proches aidants. J'adore ça. Alors, comment ça se passe là, ce nouveau, c'est-à-dire ce revirement qui a été fait?
Ben exactement, vous l'avez bien nommé, depuis 2009, c'était ça l'entente au début avec le gouvernement.
Oui.
Puis c'est quand même, faut quand même le nommer, les proches aidants de personnes aînées représentent quand même la majeure partie là, des proches aidants,
oui,
au Québec, mais quand même pendant ces 12 premières belles années où on a pu développer notre expertise avec les personnes proches aidantes d'aînés, ben ça nous a justement permis de mieux connaître la réalité des personnes proches aidantes d'aînés.
Oui.
Et il y a plusieurs similitudes avec les autres proches aidants, qu'on soit un parent d'enfant qui présente des handicaps ou le conjoint d'une personne atteinte de cancer ou qui a des limitations quelconques. On a besoin d'informations sur la maladie.
Ou bien juste un ami.
Ben absolument. Et donc, il y a plusieurs trucs qui se recoupent. Fait qu'on est bien heureux aujourd'hui. Parce que ça n'a pas été facile pendant ces 12 années-là de devoir limiter notre action quand même à seulement les proches aidants d'aînés. On nous reprochait, il y en a d'autres. Mais là, depuis novembre, on est content de pouvoir maintenant rejoindre tout le monde. Ça faisait partie de l'entente partenariale avec le gouvernement qui continue de nous soutenir pour les 10 prochaines années,
oui,
d'ouvrir à tous les prochains ans.
Oui.
C'est vraiment une bonne nouvelle. On était présents partout au Québec,
oui,
et maintenant, on va être présents pour tous les prochains ans.
Comment vous arrivez à gérer tout ça? Parce que vous êtes le directeur général national. Hein?
Exact. Avant, il y avait une structure dans les premières années, sans tomber sur, il y avait des appuis régionaux dans chacune des ressources, dans chacune des régions.
Oui.
L'appui est encore présent dans chacune des régions. Il y a des ressources, des conseillers régionaux qui sont là parce que c'est important d'être proche du terrain.
Oui.
Même s'il n'y a plus les entités incorporées, c'est tous des employés maintenant de chez nous, la maison mère, mais c'est des gens qui viennent de chacune des régions, qui vivent là, qui font partie de la communauté et qui peuvent être connectés sur les organismes qui offrent des services. Parce que vous l'avez nommé, on offre le service Info Aidant,
oui,
qui est un service de soutien téléphonique, on peut rejoindre par courriel aussi. C'est un service pour d'écoute, de soutien et de référence.
Oui.
Et ça, les gens en ont besoin.
Qui est joignable tous les jours de 8h à 20h.
Exact. Mmh. Tous les jours de la semaine, de 8h à 20h, oui. Partout au Québec. Mmh. Et c'est important parce que les gens peuvent avoir accès à ce service-là parce que, vous savez, des fois, ça prend même du temps avant de reconnaître qu'on est un proche aidant. On se voit comme la fille qui s'occupe de sa maman, oui. Tout à fait normalement, ou la conjointe. Mais à un moment donné, il vient que la charge de change aussi. Puis si on n'est plus juste là, dans le rôle normal d'un conjoint ou d'une fille, d'un fils, d'un parent,
oui.
Ça dépasse ça. Mais, bon, une fois qu'il y a cette première retour reconnaissance-là, mm-hmm. même si on dit « OK, je le suis », il y aurait peut-être quelque chose qui pourrait m'aider, tout ça, on appelle à Info Aidant, on invite les gens à appeler le plus tôt possible ouais. dans leur parcours. Mm-hmm. Et on n'est pas obligé d'avoir un besoin déjà précis en tête. C'est le rôle des conseillères et conseillers qui sont au bout du fil
oui.
de pouvoir vous aider à identifier ce qui serait mieux pour vous, à identifier les ressources qui sont proches de vous, à pouvoir nommer des besoins.
Oui. Est-ce que avant de nommer ce, comment dirais-je, d'annoncer ce plan national, d'action nationale là, par la ministre Marguerite Blais, quelles sont les négociations pour parler que vous avez eues avec elle?
Ben, ça a été en fait effectivement l'ouverture à tous les proches aidants, c'est ça ce qui était important. Mais rapidement, très rapidement, le gouvernement nous a confirmé qu'il désirait poursuivre.
Oui.
Parce que, ben, vous le savez peut-être, mais Mme Blais était à l'origine en 2009, même de la création des appuis avec M. André Chagnon.
Oui.
Alors, il y avait deux partenaires. Et donc, rapidement, le gouvernement, par l'entremise de Mme Blais, nous a dit « On veut continuer l'appui. Vous avez fait du bon travail. » Effectivement, on en a fait du bon. Et on s'est entendu rapidement qu'il fallait ouvrir maintenant à tous les proches aidants.
Oui.
Qu'il fallait changer un petit peu la structure. En fait, le but, c'est toujours la même chose. On recherche à faire certaines économies administratives pour pouvoir investir le plus possible dans les services
oui.
et financer, donner de l'argent aux organismes parce qu'au final, c'est ça le gros volet d'action qu'on
C'est ça. Le nerf de la guerre, c'est l'argent.
Ben, toujours, veut pas, c'est des services qui durent dans le temps, des services de répit. Les prochains aidants en ont besoin, pas juste une journée et que ça s'arrête après deux semaines.
Mm-hmm.
C'est des années, le parcours de prochains aidants pour plusieurs. Et donc, c'est ça, c'est important pour nous. Donc, oui, OK, on peut changer la structure administrative un petit peu, mais l'important, et c'est ce qu'on a réussi à gagner, mais je voudrais somme toute assez facilement avec le gouvernement,
oui.
c'est de conserver des ressources mm-hmm. présentes dans chacun des milieux
oui.
qui peuvent être connectés aux organismes qui nous aident à identifier les besoins, les priorités de service, les trous de service. Et c'est vraiment avec eux qu'on construit tout ça.
Félicitations à vous et à votre équipe. Là, vraiment, c'était une de vos citations d'ailleurs. Et l'appui est présent partout et désormais, il sera présent pour tous. C'est vous qui le dites.
Exact. Ça fait plaisir à dire. Ça fait des années qu'on souhaitait le dire et aujourd'hui, c'est concret.
Oui, oui. Alors, selon les profils, là, quels sont les... Au fait, est-ce qu'il y a un profil spécial pour les proches aidants? Est-ce que tout le monde peut devenir proche aidant?
Tout le monde peut le devenir. Tout le monde sera probablement appelé à l'être. En fait, si ce n'est pas tout le monde, ça devrait l'être.
Parce oui.
que le noyau familial a beau avoir changé. Il est différent de famille en famille. On est moins nombreux qu'avant.
Oui.
Mais c'est justement l'importance que tout le monde s'investisse. Vous savez... Pour les proches aidants d'aînés, il y avait un profil où c'était souvent, sans généraliser, là, mais on pouvait distinguer une femme souvent dans la quarantaine, entre 44, 55 ans, qui avait à la fois des enfants et qui avait aussi des parents vieillissants.
Oui.
Mais ça, c'est de façon très générale. Mais il y a beaucoup de conjoints, conjointes. Et là, on ajoute dans tous les proches aidants, ben, il y a beaucoup de familles avec des parents qui ont un enfant en tout jeune âge, qui peut avoir un diagnostic ou plus tard de certaines limitations, le spectre de l'autisme. Donc, c'est vraiment, vraiment varié.
C'est varié, oui.
Et quand vous me demandez est-ce que tout le monde peut être, je vous répondais effectivement, tout le monde devrait l'être parce que ce qu'on remarque trop souvent, c'est que la charge de proche aidant est assumée très grandement par une personne. Il y a une personne, souvent un pilier dans la famille, pour des raisons géographiques ou pour des raisons de situation familiale, qui va assumer un plus gros rôle.
Ou bien des raisons organisationnelles.
Aussi, exact. Le marché, il y en a qui sont en emploi, il y en a qui ne sont pas. Donc, il y a toutes sortes de facteurs.
Mm-hmm.
Mais ce qui fait la réussite et ce qui fait en sorte, ben, la réussite, c'est peut-être un grand mot, mais ce qui fait en sorte qu'un proche aidant principal, disons, n'arrivera pas à un état de total épuisement et souvent, pas souvent, mais peut même avoir des complications de santé plus graves que l'aidé duquel il prend soin parce que c'est une tâche qui est très lourde pour certains.
Oui.
Ce qui fait la différence, c'est s'il y a un entourage qui s'implique aussi et qui se distribue un peu la charge, les responsabilités, ou encore qui va offrir son soutien au proche aidant principal, ne serait-ce que lui demander comment il va, de l'écouter, de ne pas juger, de c'est quelque chose de prenant, d'engageant.
Oui.
C'est des gens de cœur qui s'engagent là-dedans,
toujours
par choix.
Oui. On fait une petite pause, on fait une petite pause musicale pour vous permettre de souffler un peu.
Merci.
et puis on vous revient. À tout de suite.
À
oui, merci.
Je suis né en vous, je vis sur vos jours, je suis la peine, la joie et tout le tralala. Sortez-moi de ce corps. Sortez-moi de ce corps. Je suis une larme, je ne connais pas la honte. Sans me pousser à bout, parfois je tombe. Vous refusez de me voir, vous n'aurez pas d'histoire. Vaut mieux un jour de pluie qu'une vie de brouillard. Sortez-moi de ce corps. Sortez-moi de ce corps. Faites un petit effort. Je ne demande rien du tout, ne serait-ce que vivre et finir sur vos joues. Je vaux la peine, je suis utile. Quelques secondes et puis je me retire. Cette larme dont on se rappelle, en forme de perle, petit goût de sel, le sang de l'ego et l'eau des sentiments, la mélancolie de perdre un vieil ami. Sortez-moi de ce corps, accompagnez-moi. Faites un petit effort. Laissez donc l'orgueil de côté. Les plus grands hommes ne se retiennent jamais pour pleurer. Je vaux la peine, je suis utile. Quelques secondes, puis je me retire. Sortez-moi de ce corps, accompagnez-moi dehors. Sortez-moi de ce corps.
Merci beaucoup, Christian Sproka. Je suis une larme. Alors, notre invité est toujours avec nous. Guillaume Joseph, directeur général de l'Appui, cet organisme qui permet de... Là, on va parler un peu maintenant de ce que l'organisme donne comme aide aux proches aidants, d'ailleurs. Comment les gens peuvent s'adresser à vous, numériquement parlant, au téléphone, en semaine de 8h à 20h. Et puis, les différentes sortes... Pourquoi est-ce que les gens ont besoin de proches aidants? Bon, vieillissement, maladie neuro-dégénérative, spectre de l'autisme, dépendance, soins palliatifs, quelle que soit la situation et l'âge de la personne aidée. Tous pourront bénéficier d'un accompagnement. L'ambition est de pouvoir apporter un soutien de qualité à tous les proches aidants du Québec dont le nombre augmente et qui sont particulièrement éprouvés. Est-ce qu'il y a des proches aidants qui hésitent de vous contacter ou bien qui n'arrivent pas, qui se disent non, je vais bien, je vais, alors qu'ils ont besoin d'aide aussi?
Ben oui, absolument. Absolument. Puis vous me permettez, M. Blas, pendant qu'on a le temps, puis peut-être qu'on pourra même le dire deux fois,
oui.
Pour nous contacter, le numéro de téléphone, le 1-855-852-7784. Info aidant, sinon les gens peuvent le trouver sur...
On allait le communiquer même à la fin d'ailleurs.
Alors les gens effectivement peuvent hésiter parce que, comme je vous disais, des fois ils ne se reconnaissent pas ou ils pensent que c'est pour les gens qui sont totalement en détresse.
Oui.
Mais au contraire, ce qu'on cherche à faire, c'est éviter que les gens se retrouvent en situation d'épuisement, se retrouvent en situation de détresse.
Oui.
Et pour ce faire, il faut prendre action dès le début du parcours. Vous savez, lorsqu'on demande aux proches aidants souvent ce qu'ils ont besoin, la dernière personne de qui ils vont nous parler, c'est de leurs besoins à eux, parce que leur quotidien, leurs pensées, leurs soucis, leur anxiété est souvent pleinement et que seulement portée sur la personne qu'ils aident, que ce soit leur enfant, un conjoint, leurs parents.
Oui.
On s'inquiète du futur et on passe souvent en dernier. Mais si l'aidant tombe malade,
c'est fini.
Ça aide pas à l'aider non plus.
Ça aide pas à l'aider non plus, oui. C'est fini.
Et donc, c'est important de penser à soi. Mmh. Et comme je disais, c'est pas nécessaire d'avoir déjà la solution, de savoir ce qu'on a besoin. Le service et nos conseillers en ligne servent à ça. Parce qu'ils sont experts là-dedans. Ils en rencontrent des cinquantaines, des centaines par jour.
Oui.
Et ils vont pouvoir aider la personne qui appelle à mettre le doigt sur les petites situations.
Mmh.
Et ne serait-ce que pour ventiler, pour parler. Parce que vous savez, tantôt, je mentionnais, il faut l'entourage aussi être à l'écoute, être disponible pour les proches aidants. Mais souvent, les proches aidants ont l'impression que sont un peu tannés. Ils ont l'impression qu'ils vont être lourds, qu'ils vont être pesants pour les gens de leur famille à toujours raconter les situations.
Oui.
Et donc, d'avoir quelqu'un de neutre, d'extérieur, à qui on peut se confier aussi puis nous aider, ça fait du bien.
Ça fait du bien, oui. Ça ne peut que faire du bien, oui. Mmh.
Et vous savez que l'année a été difficile, les deux dernières années ont été difficiles pour tout le monde, mais les proches aidants ont été passablement...
Et c'est pas fini.
...brassés.
Oui.
L'accès à leurs proches a été limité, que ce soit dans les CHSLD ou dans les maisons, dans les résidences pour personnes aidées. Les proches aidants ont beaucoup de questions, même si c'est parmi les personnes de la population probablement dans les plus résilientes.
Oui.
Parce qu'ils ont des situations, des deuils à faire qui changent, des deuils blancs qu'on appelle la maladie évolue.
Oui.
On doit s'adapter constamment. Mais il reste qu'au quotidien, ça vient très anxiogène aussi.
C'est ça.
Les informations qui arrivent de tout partout ne sont pas toujours claires.
Oui.
Donc, les gens en service info-aidant vont pouvoir les aider à les diriger, leur donner les réponses ou les diriger vers les bonnes ressources.
Vers d'autres ressources, oui. Mmh.
Exact. Et c'est important qu'on puisse en parler de ça parce que souvent aussi, il y a dans la perception populaire que les services offerts des fois par les organismes communautaires ou les entreprises d'économie sociale sont destinés qu'à des populations avec des situations financières plus précaires et tout. Mais c'est absolument faux.
C'est ça.
C'est des services dédiés à tout le monde.
À tout le monde, oui.
Le réseau de la santé, les professionnels du réseau de la santé sont essentiels à la qualité de vie des proches aidants pour apporter des soins à la personne malade, pour donner toutes sortes d'aides pratiques à la maison et tout. Mais le réseau de la santé ne peut pas tout prendre en charge.
Non.
Et c'est pour ça que des organisations comme la nôtre sont financées par le gouvernement pour qu'on puisse aller soutenir le développement de services dans chacune des petites communautés locales.
Oui, oui. Pour les deux dernières minutes qui nous restent, on va mettre un peu l'accent sur ce que vous avez accompli en un an. Info aidant a été contacté près de 15 000 fois en un an. Soit plus de 36% de demandes d'aide reçues par rapport à l'année précédente.
Exactement.
Et l'appui soutient chaque année plus de 300 organismes et investit 20 millions de dollars en services directs pour les personnes proches aidantes. Et plus de, parmi les 500 000 heures d'intervention annuelle, beaucoup concernent les services de répit qui permettent aux personnes proches aidantes de se libérer temporairement des responsabilités. Mais quand même, vous et votre équipe, c'est un travail colossal que vous faites.
un travail colossal qui ne peut absolument pas être réalisé avec, sans les organismes de desquels je vous parlais.
Oui.
Des sociétés Alzheimer, des associations de proches aidants, des centres d'action bénévoles, Société du Parkinson. Donc, c'est tous des acteurs qui ont des antennes régionalement, localement.
Oui.
Et qui donnent des services concrets.
Oui.
Et vous me demandiez en début de notre échange qu'est-ce qui a né les objets de négociation avec le gouvernement.
Oui.
Ben, on l'a nommé l'argent. Ça prend plus de fonds parce qu'on ne répond qu'à la pointe de l'iceberg en ce moment.
Oui.
Et la population est vieillissante, les familles sont de plus en plus réduites, on le nommait. Donc, le besoin des proches aidants d'avoir du soutien, il est vraiment réel.
Oui.
Et il y en a. Il y a des services disponibles près dans chacune des localités, mais dans certaines régions, par contre, il ne faut pas se mentir, il y a des listes d'attente. Et donc, plus les proches aidants vont être enclins à agir et aller chercher des demandes ou aller chercher du soutien, s'enquérir pour parler, pour avoir des services,
oui,
mais plus rapidement, ils vont pouvoir accéder à ces services-là.
À ces services-là, oui, oui. On va redonner encore le numéro de téléphone et puis l'adresse courriel. À travers laquelle le numéro de téléphone, c'est le 1-855-852-7784, c'est bien ça?
Exactement.
Et le courriel, ça, c'est en semaine de 8h à 20h. Ben, le courriel, on peut l'envoyer à n'importe quelle heure, n'importe quand. C'est info-aidant@l'appui, pas d'accent, l'appui, lappui.org, c'est-à-dire org. Un dernier mot à nos auditeurs, s'il vous plaît.
Je vous souhaite, en fait, à vous et à tous les auditeurs, aux proches aidants particulièrement, de joyeuses fêtes. C'est souvent pendant ces moments-là où on parle, où on voit un petit peu ses proches, on l'espère qu'on peut constater qu'il y a des choses qui ont évolué ou que là, on fait un constat qu'on... Oups, j'ai peut-être... Ou c'est des gens autour de nous qui nous le font remarquer.
Oui.
Prenez soin de vous, la bienveillance envers les proches aidants et les personnes dont ils prennent soin.
Merci beaucoup à vous, Guillaume Joseph, directeur général de l'appui. Et puis, merci, bravo et félicitations à vous et à votre équipe pour le beau travail que vous faites. Et puis, bon, s'il y a de nouveaux projets, n'hésitez pas, on va vous recontacter pour que vous veniez nous parler de ce qui s'ensuit.
Merci beaucoup.
Joyeuse fête à vous et à vos proches.
Au revoir.
Au revoir.
Gagaza zero kuveri amno Inelua tamaji no you baby Ambaraza sekre no you tenye Anona net meti mandam na Anona net meti mudam na Anona net atokuta velam na Anona net amekumashiruza baby Bika mnaze, asaranga mnaze,
heba,
fulinya mnaze, kura toti tavela mnaze,
fainya kunjabi karatsa boni tan pofa mnyarka mno, veri teri tapsis kalobza te kwa kila no, amno ifadwa,
heba,
tistubla vwa,
heba,
rajabi sava, tenga umnanana, za tenga faseche, za tenga famike,
Big MG na lenguio, merci à toi Nicolas. On se retrouve demain, bien évidemment. Merci à notre invité Guillaume Joseph, directeur général de l'appui, l'organisme l'appui pour FO Aidant. Et je vous le répète, hein, je vais revenir là-dessus de temps en temps comme ça parce que c'est très, 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 très important. Ça concerne beaucoup de familles. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de votre fidélité. On se retrouve demain sur les ondes de Canal M pour la dernière émission de la saison. Alors sur ça, je vous dis ciao. Merci à vous. Prenez soin de vos minutes.